Et bienvenue à La Grange, saison 2, épisode 10.
Bienvenue.
Bienvenue. Comme les coïts d'octogénaire, les épisodes deviennent de plus en plus rares, mais une fois la pilule bleue passée, on canarde sec pendant 20 minutes. Aujourd'hui, en édito, on va parler de l'effet Pygmalion. Et non, ça n'a rien à voir avec Sarkozy, en fait. Déjà, pour de la pure culture en intraveineuse, Pygmalion, c'est un sculpteur dans la mythologie grecque. Un sculpteur dans la mythologie grecque. Et c'était un mec misogyne, en fait, qui trouvait que les femmes n'avaient aucune vertu. Qu'il fallait les fuir, célibataire forever, et j'en passe, quoi. Un incel avant l'heure, en fait. Et quand t'es un bon gros loser fragile comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques une femme parfaite en la sculptant dans de l'ivoire, quoi. L'équivalent des poupées sexuelles en silicone actuelles, et oui, ça existe, lien en description, évidemment. Et le mec faisait tellement pitié que Aphrodite, la déesse de l'amour, a donné vie à sa poupée, et Pygmalion a pu l'épouser dans l'indécence la plus totale. Bref, l'effet Pygmalion n'a que peu de rapport finalement avec ce mythe, donc je vous ai un peu parlé de ça pour rien, mais j'adore les digressions.
Oui, mais c'est beau, c'est de la culture.
Bah oui, et puis d'ailleurs, ma maman a toujours voulu me mettre sous Ritaline et un papillon. Donc, l'effet Pygmalion, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire une situation dans laquelle quelqu'un prédit ou s'attend à un événement, et de façon consciente ou non, il va modifier son comportement pour que ladite prophétie se réalise. L'effet Pygmalion, c'est un cas particulier de prophétie autoréalisatrice qui améliore les performances d'un sujet en fonction des croyances en sa réussite par son entourage. Et c'est un concept qui s'applique très très bien en milieu scolaire, où ça a été beaucoup étudié. Alors pour simplifier, si les profs pensent que tu es un bon élève, ça augmente tes chances de réussite scolaire, et à l'inverse, si les profs pensent que tu es un mauvais élève, ça diminue tes chances de réussite scolaire. Et pour info, quand une prophétie autoréalisatrice, elle diminue tes performances, ça s'appelle l'effet golem, et pas l'effet...
Comment ?
L'effet golem.
Golem. Comme le
golem dans la mythologie juive.
Okay.
Exactement. Qui serait intéressant.
C'est une créature d'argile qui a...
Voilà, on écrit Aleph sur son front. Il y a un mot qui veut dire vie, ouais. Et t'effaces le premier. Bon bref, on en parlera.
Et la créature d'argile se met à vivre.
Exact. Ah oui, non, faut mettre un parchemin dans sa bouche.
Je sais pas, j'ai pas fait... la dernière fois je l'ai pas fait en entier.
Ah, si tu dis pas la cabale, écoute... comment c'est que l'effet Pygmalion existe? En 1948, Robert Rosenthal, un psychologue américain, a tiré au sort des rats et les a divisés en deux groupes. Il les a refilés à des étudiants en leur disant de tester les capacités à se sortir d'un labyrinthe. Et il avait bien pris soin de dire qu'un des deux groupes était constitué de rats extraordinaires, donc triés sur le volet, et que l'autre était un groupe de rats plutôt pourris. Ce qui en pratique était faux. En fait, c'était vraiment des rats tirés au sort parmi un panel de rats similaires. Et en fait, les rats qualifiés de brillants avaient deux fois plus de bonnes réponses. Tout ça parce que les expérimentateurs pensaient qu'ils étaient plus brillants et ils ont modifié leur comportement vis-à-vis des rats en conséquence. Voilà, c'est bien beau, mais comment c'est que ça s'applique aux humains? En fait, c'est une question légitime, parce qu'il y a bon nombre d'études sur des modèles animaux qui peuvent pas se répliquer à l'humain. Du coup, en 1963, il y a une femme qui s'appelle Lenore Jacobson, qui était une directrice d'école, qui a contacté Rosenthal et qui lui a proposé de tenter une expérience similaire sur des élèves.
Ce qu'on ne ferait pas actuellement.
Faire des expériences sur les enfants, c'est toujours cool. En vrai, il n'y a pas eu de blessés, mais...
Peut-être jouer sur toute leur vie, on ne sait pas.
Probablement, parce que... il est allé... first grade, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent, on va dire il est allé au collège.
Ouais.
Et il a fait passer une sorte de test de QI aux enfants. Et il s'est présenté comme un...
Aléatoirement, il leur a donné une note.
Alors, je crois qu'il a vraiment fait le test de QI, mais il s'est fait passer pour un statisticien d'Harvard et il a dit « J'ai un nouveau test pour prédire quels élèves ont un super bon potentiel.
Okay. »
Et il a fait semblant de faire fuiter les résultats aux profs. Genre,
c'est horrible.
Je t'envoie le mail de l'époque, donc j'imagine un pigeon voyageur en disant « Oups, mauvais destinataire. » Et puis, c'était marqué « tel élève, donc 20% des élèves,
ouais,
ont un super potentiel. » C'est des ouf, quoi. Et à la fin de l'année, donc c'était vraiment sélectionné aléatoirement. Ouais. Et à la fin de l'année, il a refait un test de QI aux enfants et il a pu regarder la progression. En fait, évidemment, les élèves faussement surévalués au départ ont le plus progressé. Et ça, c'était surtout marqué pour les premières années et les dernières années. Mais bon, peu importe. C'est-à-dire que les gens chez qui on s'attendait à avoir des bons résultats, ils ont eu des meilleurs résultats.
Mais c'est ouf.
Il y a sûrement plein d'explications. Peut-être que les profs s'adressaient en priorité à eux, ou les notaient de façon plus indulgente.
Tu les mets devant, les bons élèves, ils vont devant.
Voilà, il y a plein d'explications, mais en gros, c'est ça l'effet Pygmalion. Et évidemment, cette étude, elle a été répliquée, parce que la réplication en science, c'est comme le fromage dans la raclette, tu vois, et avec des résultats majoritairement concordants. Donc je sais pas si ça t'évoque des situations dans la vie?
Si, bah, bien sûr, bah, je pensais principalement à l'école.
Ouais.
Où les bons élèves sont systématiquement surnotés. Où tu vois que les profs vont dire, attends, mais c'est pas possible qu'il ait 12, là, si la moyenne elle est 12, lui. Donc ils vont revoir leur copie sur les bons élèves, ou ils vont avoir tendance justement à pas lire la totalité de la copie chez un bon élève, ou à les favoriser. Enfin, ceux qu'ils considèrent comme des bons élèves.
Voilà, en gros, vu qu'il y a l'effet inverse, l'effet golem, quand tu mets une étiquette sur quelqu'un, tu as tendance à agir de façon à confirmer.
Ouais, le mauvais élève, le prof va le délaisser, enfin, on a ces choses-là. Mais ça passe aussi au boulot, ça marche aussi.
Ah oui,
comme
oui
ça,
tout à fait. Alors, il y a plein d'études hyper intéressantes. Il y en a plein. Si tu parles un peu anglais, il y en a Moult, toi qui es un peu haut placé dans la hiérarchie de l'entreprise. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Moi, je pense qu'on devrait.
Non, mais moi, je me rends compte tous les jours. J'essaye de pas. Mais sauf que tu le fais inconsciemment. Par exemple, quand tu donnes. Tu vas avoir tendance à refiler plus de boulot au gars que tu sais sûr. Mm. Et à en enlever à celui en qui tu n'as pas confiance.
Bah José, quoi. Aucune confiance dans José.
Mais c'est,
Olive.
C'est ce qui est complètement débile, parce que ça rajoute du boulot au gars qui est sûr, alors que normalement, vu qu'il est sûr, il ne devrait pas avoir plus de boulot qu'un autre. Il devrait même être récompensé pour ça. Pareil pour celui qui se plaint jamais. Tu vas avoir tendance à lui rajouter du boulot sur le dos, alors que celui qui se plaint tout le temps, tu vas avoir tendance
alors,
à lui
dans
en enlever.
Dans l'effet Pygmalion, c'est quand tu as présenté, genre... Il y a ton boss qui te dit, tiens, j'ai recruté
Olivier, mais par exemple, tu vois,
c'est un super bon élément.
Non, mais tu vois, par exemple, on peut s'y mettre, enfin, vu qu'on est, t'as plusieurs personnes dans la hiérarchie, on peut se passer le mot. Ouais, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça. Ah ouais, lui, il fait ça. Et donc, tu te fais une idée générale de la personne, ça t'influence.
Mais c'est moins fort, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est un des résultats des nombreuses réplications, c'est que l'effet est moins fort si on te présente les résultats après que t'aies pu faire connaissance avec la personne.
Ouais.
Ça marche quand même, mais moins.
Mais c'est pour ça que c'est très important, la première impression.
Ouais. Ouais,
moi,
j'ai beaucoup
utilisé ça quand j'étais gamin, de faire très bonne impression la première fois.
Bah, ça m'étonne pas.
Et après, ils sont là, les personnes te surestiment, et donc ça te permet d'en foutre moins, quoi. De moins bosser, de pas mettre le couvert, de faire... Tu bosses à fond. Je le faisais beaucoup en colo, ça. En colo, première semaine, j'étais sur tous les fronts, à faire la vaisselle, à toujours à demander pour les tâches. Et les deux dernières semaines, j'en faisais moins.
Ah, bien joué.
Parce qu'ils étaient malins, mais Eric, il en fait tout le temps, il est tout le temps à bosser. Et t'as donné une fausse image, c'était une vraie image de toi pour le coup, mais tu joues de ton image et après derrière tu peux te reposer un peu sur tes lauriers.
Je sais pas si ça s'applique exactement ça, mais je comprends l'idée.
Tu me demandes comment ça peut se retrouver dans la vie de tous les jours chez moi, c'est un peu comme ça que j'ai.
Mais l'effet Pygmalion, je sais pas si ça. Tu peux te le faire toi-même.
Est-ce que ça marche avec un enfant comme on en parlait les fois précédentes, où tu l'appellerais maître ou monsieur le juge, ou. Enfin, t'aurais tendance à le surestimer ou à.
Alors j'imagine que ça marche, mais ça doit pas être un effet Pygmalion, ça doit être plutôt une prophétie autoréalisatrice au sens large plutôt. Voilà. Parce qu'il y en a plein d'autres.
Mais oui, l'effet Pygmalion, c'est difficile de se défaire de l'image qu'on a d'une personne.
Exactement.
Et puis, j'essaye le maximum de temps. Quand t'es manager, t'essayes de passer outre et puis de donner des tâches, par exemple, que tu penses que la personne ne peut pas réaliser parce que t'as cette image d'elle qu'elle n'en est pas capable, alors qu'elle devrait, sur son poste, elle devrait pouvoir faire ça. Et bien, je leur donne... De temps en temps, je me dis, tu vas te sortir de ton carcan.
Allez Olivier, c'est le moment.
Et tu donnes ça et tu lui dis, vas-y, fais-le. Et en vrai, 80% du temps, tu as une mauvaise surprise. Mais 20% du temps, tu te dis, ah.
Ça va, une chance sur 5 que ça marche.
Ouais, non, mais après, voilà. Et puis, il le faut. Il faut de temps en temps ressortir les gens. Parce que ça marche, le concept du vilain petit canard, c'est aussi un rôle que les gens te donnent, mais un rôle dans lequel tu te confortes.
Ouais.
La majorité des gens se confortent dans ce rôle-là.
J'ai pas fait une recherche étendue, mais je crois que c'est quand t'as un effet golem sur toi-même, c'est l'impuissance acquise, quelque chose comme ça.
Ouais, et donc c'est les gens ont tendance à se
à
dévaloriser,
se donner, voilà, une propre étiquette et puis
à se conforter dans le rôle-là. Donc tu vas essayer de les en sortir, mais ils sont dans une sorte de confort d'inconfort, voilà. Et ils veulent pas sortir de leur zone de confort de la mauvaise idée qu'on a d'eux. Et ça, c'est assez compliqué. Ça, c'est vraiment le plus compliqué, je pense, c'est de réussir à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de peur à vouloir sortir d'une situation où on n'est pas bien, quoi. Et c'est vraiment le plus difficile parce que des fois, les gens sont, écoute, ma vie, c'est tellement nul là, Mais c'est vrai, hein. Ma vie est tellement nulle là que de vouloir en sortir, de vouloir aller plus loin, d'essayer autre chose, et ils ont peur encore de se casser la gueule. Mais au bout d'un moment, si ta vie elle est nulle, tu vas pas te casser la gueule encore plus loin, tu sais. Enfin, tu peux, mais le risque est minime par rapport au ratio. Ton aversion,
bénéfice,
oui,
risque,
voilà. Ton aversion au risque, là, elle est beaucoup moindre à l'idée d'aller mieux. Et donc, souvent, ça, tu le retrouves dans l'effet golem ou l'effet Pygmalion.
Et dans l'impuissance acquise, ouais, je pense que c'est pas évident. Je suis pas manager, mais peut-être que tu peux tenter de renverser en disant.
J'essaye,
en changeant l'image qu'ils ont de même, en disant, ouais, je sais, Olivier, je sais que
mais
t'es un très bon élément, que
bah,
t'es
c'est
pas
ça.
Au meilleur de tes jours, mais qu'au fond, t'es un gars sûr.
Mais tu vois, même je le fais avec mes éléments sûrs. Tu vois, même j'aime bien leur rappeler que c'est des éléments sûrs. Tu sais, c'est un milieu. Moi, j'évolue dans un milieu d'hommes. Du coup, c'est bon, arrête de me lécher le cul, c'est bon. c'est bon.
C'est bon, je l'ai vu le dernier Fast and Furious, hein, c'est bon.
Arrête de te foutre de ma gueule, c'est bon, je sais que tu me casses dans le sens du poil. Et mine de rien, ils ont beau le dire, il y a quand même, c'est comme pour l'effet placebo, il y a quand même une petite partie qui s'incruste dans leur cerveau.
Belle analogie.
Voilà.
Ok, écoute, très beau retour d'expérience. Est-ce qu'on passerait pas à ton
édito,
à ton exposé de CE2? Est-ce qu'on ne ferait pas un jingle comme à la bonne époque?
Je suis sûr que ça a manqué aux gens. Un beau sujet de merde, on peut le dire, pour celle-là. Je suis allé sur internet comme d'habitude pour me renseigner et il se trouve que ça a déjà été traité par France 3 qui a fait
d'accord,
une pastille
incroyable.
Dessus et un type que j'adore, qu'on est beaucoup adoré, qui s'appelle David Castello-Lopez et qui lui travaille sur Europe 1 en ce moment. Enfin, il travaille pour la radio-télévision suisse aussi, mais il travaille pour Europe 1 et puis il fait un petit caisse ou qui est-ce. Et il explique un objet ou une personne à travers le temps. Enfin,
mais quel est donc que ce sujet mystérieux?
Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que je faisais un doublon. Mais je pense que vous n'écoutez pas Europe 1, vous nous écoutez nous.
Bon, on est bien plus pro.
Et puis surtout, beaucoup moins de milliardaires qui nous possèdent.
C'est vrai. Voilà. Mais on est ouvert à toute proposition. De ouf. Mais... tout le monde. On prend l'argent d'où il vient.
Donc, je vais vous parler d'un objet usuel, un objet du quotidien. Il s'agit ici du papier toilette. Donc, je vais commencer en vous disant que papier toilette ne prend pas de S. Voilà. Il faut le savoir.
D'accord. Parce que c'est pas les toilettes.
Voilà.
C'est la toilette. Ok.
Et on a tendance, enfin.
Bim. Déjà de la culture.
On commence comme ça, mais c'est.
On en dit souvent du papier toilette, donc c'est logique que ça prenne.
Oui, je sais, mais beaucoup de gens n'écrivent pas papier toilette sans S. Voilà.
Je le mettrais spontanément au pluriel, mais je le ferai plus.
Parce que oui, c'est exactement. Non, mais c'est exactement comme tu as dit. Plutôt que de servir à la toilette, il est dispensé aux toilettes. C'est ça. Tu penses en fait que.
Ouais.
Mais c'est du coup papier toilette ne prend pas de S.
Ok.
Voilà, on commençait par là,
un
petit instant graphie. Donc le papier toilette, bien sûr, c'est très...
Inventé en 1848.
T'es pas très loin.
Ah ouais.
C'est 1857.
Ah, bon gosse.
Bon, et on va commencer quand même un peu avant, parce qu'avant, il fallait bien que les gens s'essuient les fesses. Dans la Grèce antique, c'était pas totalement... totalement à la mode de s'essuyer les fesses, ça n'était pas une question d'hygiène très, très personnelle.
D'accord.
Voilà, donc... C'est
vrai qu'on les voit jamais, on les voit tout le temps de face, sur les toges, là, sur des trucs, et jamais...
Et donc, ce qu'ils avaient l'habitude de faire en latin, ils prenaient un objet qui s'appelait le tersorium, ce qui est un bout de bois, en fait, avec un petit bout d'éponge au bout, qui trempait dans un seau soit d'eau salée, soit de vinaigre.
D'accord.
Et j'ai souvenir qu'on voit ça dans Kaamelott, livre 6. César se retrouve aux toilettes et parce qu'il s'est chié dessus. Et tu vois ça, tu vois un seau en plein milieu avec plein de bâtons qui trempent dans le vinaigre.
D'accord.
Voilà. Donc, et au fur et à mesure des années, en fait, il y a eu toutes sortes. Les gens ont utilisé toutes sortes de choses pour s'essuyer les fesses. Donc, tu as eu de la feuille naturelle d'arbres, mais aussi du lin.
Du lin, sérieux?
T'as eu des cornes de
maïs. Ah, peut-être qu'il le lavait.
Des poupées de maïs. Des poupées de maïs aussi.
D'accord.
T'as eu des cailloux. Beaucoup de cailloux. Il y a Aristophane qui a une phrase là-dessus, qui est un philosophe grec, qui dit « Trois pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses. Polies, il en faut quatre. »
D'accord.
Voilà. Donc, il y a eu des cailloux et... Tout a servi à travers le temps pour se torcher les fesses. Donc, bien sûr, comme vous le savez, le papier a été inventé par les...
Français ?
Les Chinois.
Ah, le papier...
Le papier, tout court. Oui. Les Chinois ont inventé le papier. Et donc, c'est les premiers à avoir utilisé le papier comme à l'usage personnel qu'on connaît.
Ah, donc c'est eux les qui ont inventé le papier toilette.
Ils ont inventé le papier et ils l'utilisaient pour se torcher.
Techniquement, j'aurais pas cru, tu vois.
Mais le papier toilette moderne, c'est pas eux qui l'ont
inventé. Oui, mais bon.
Donc, c'était au 3e siècle après Jésus-Christ.
Ah ouais.
Voilà.
Mais ils ont mis tout le monde à l'amende. C'est-à-dire que nous, pendant qu'on mettait des petits cailloux, clac-clac.
Ah ouais, mais on est resté très longtemps aux cailloux en
accident.
D'accord.
Moi, ça fait quoi, 7-8 mois, quoi, là.
Qu'est-ce que je voulais dire que... Oui, bah, après, t'as le fait qu'aussi, t'as 70% de la population mondiale qui n'utilise pas de papier toilette. C'est-à-dire qu'ils se lavent à l'eau ou autrement, quoi. Mais principalement à l'eau. Donc, dans les pays musulmans, c'est bien sûr... en tenant la bouteille d'eau de la main droite et en utilisant la main gauche qui est impure, car la main droite sert à saluer les autres et à manger.
D'accord, bah tant mieux.
Voilà, mais bon, il faut le savoir que chez de musulmans, tu peux aller, même en France aujourd'hui, et tu as une bouteille d'eau aux toilettes, et elle te sert à nettoyer ton postérieur.
Ok. Voilà.
Avec la main gauche, bien sûr.
Ok.
Donc, chez nous, on a aussi eu l'invention du bidet, qui a participé à l'hygiène intime. Voilà, énormément. Avant qu'on ait le papier toilette connu, c'est-à-dire en 1857, un type qui s'appelait Joseph Gaetti, qui a fabriqué industriellement du papier toilette. Après, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que son nom était marqué sur tous les papiers qu'il produisait, donc les gens se torchaient avec son nom. Et il a fallu attendre 1935, soit une cinquantaine d'années, pour que l'entreprise parvienne à ne plus avoir de décharde sur le produit fini.
Oh, ah ouais, stylé. C'est-à-dire que les gens étaient vraiment... En même temps, entre ça et des cailloux...
Voilà. Bon, et l'inventeur du papier toilette moderne, celui qui a mis le point final, c'était en 1891, il s'appelait Seth Wheeler. Voilà, il a posé le brevet.
Anglais, du coup, ou...
Américain toujours. Et puis les premiers papiers qu'on a eu en France, nous, c'était en fait des sortes de catalogues. Donc tu avais des gros catalogues avec les gens qui arrachaient les feuilles du gros catalogue et s'en servaient. C'était pas du tout du papier toilette en rouleau comme nous aujourd'hui on connaît. Donc t'as eu plusieurs sortes de papier toilette. Donc au début c'était le papier journal quand les journaux ont commencé à se disperser à travers le monde. T'as même eu un célèbre catalogue américain qui a eu des lettres de remontrance quand ils sont passés au papier glacé, car ils servaient de papier toilette à l'époque. Donc, il y a eu plusieurs sortes. Donc, comme je disais, là, le papier journal. Après, ils sont passés au papier bulle cordelis, parce qu'il avait une teinte de corde. Donc, c'est tout ce que j'ai compris. Et qui était très présent sur le marché entre 1950 et 1970. Et enfin, il y a eu le papier qu'on connaît aujourd'hui, le papier dit crêpé, qui s'est développé à la fin des années 50. Voilà, et puis de fin des années 70, ils ont commencé à rajouter de la ouate dans le papier pour le rendre plus doux et plus agréable au toucher pour notre anus. Voilà, je voulais caler anus dans ma chronique quand même.
C'est de bonne guerre.
Et c'est là où ça a vraiment éclaté dans les pays occidentaux, le papier toilette, et que c'est devenu une habitude. Donc j'ai quand même quelques chiffres, donc j'en suis absolument pas sûr, mais je vais vous les citer. Un Français consommerait 71 rouleaux de papier toilette par an.
Ok.
Un Anglais 127 et un Allemand 134.
Oh, Ah ouais, attends, on est deux fois moins qu'un Allemand.
Alors clairement, j'en ai aucune idée de qui a fait ces sources, donc prenez-le comme vous le prenez, ça peut être une anecdote rigolote à sortir en soirée, et vous dites que c'est Lagrange Podcast qui ne cite pas ses sources. Voilà.
D'accord, bah, peut-être vrai, peut-être...
Est-ce que j'avais mis les... Oui, bah oui, ça représente un marché énorme, hein. En Europe, c'est 8,5 milliards d'euros.
Ouais, mais vraiment, moi, je me vois pas vivre sans. Hein.
Voilà, et c'est... l'Europe, c'est 26% de la consommation mondiale de papier toilette, donc on est vraiment très très présent sur le papier toilette. C'est très européen, c'est à peu près 13 kilos par an, par personne. Et alors, bien sûr, ça pose des problèmes écologiques. Parce que comme t'en parlais dans les épisodes précédents... Oh, pardon.
Il n'y a pas de mal.
Quand t'en parlais dans les épisodes précédents, le fait de traiter l'eau usée, ça demande le fait d'y mettre du papier toilette, c'est un élément en plus, donc qui demande de rajouter des produits chimiques pour traiter l'eau et pour le dissoudre ou le faire disparaître de l'eau en question. Et de plus, ils ont inventé maintenant le carton que tu peux jeter, qui se dissout dans l'eau et que tu peux jeter... Et qui n'est pas, en fait, qui rajoute encore de la pollution dans les eaux usées.
D'accord, donc faut pas le faire.
Non, faut pas le faire du tout. Je sais pas quel est le con qui a inventé ça, mais faut le mettre dans ta poubelle jaune et l'envoyer au tri sélectif.
Mais je suis presque chaud pour m'acheter des chiottes à la japonaise, moi, du coup.
Bah alors oui, puisque t'en parles, dans la majorité des pays d'Asie, en fait, et le papier toilette est vraiment considéré comme quelque chose de pas hygiénique, et ils ont une sorte de bidet intégré à leur toilette. Donc c'est ça qui va t'en propulser un jet d'eau entre les fesses et qui va te nettoyer les fesses ainsi. Et puis derrière, bien sûr, ils ont le petit courant d'air chaud qui vient te les sécher.
J'ai testé, parce que je suis allé au Japon. Voilà, ça fait bizarre. Hein. J'ai pas d'autres, retours d'expérience. Mais je pense que c'est comme tout, tu t'habitues et puis... Ouais.
Bah, je pense qu'en tant qu'étranger, ouais, c'est surtout nous qui sommes habitués.
Du gaijin, ouais, c'est clair.
Ça doit faire bizarre.
Et bah ouais, mais alors la plupart des endroits où j'allais, t'avais quand même du PQ, je pense qu'ils... Voilà, dans les hôtels, dans les machins, ils savent que...
Donc après, là, pour finir sur l'écologie, le truc le plus important, c'est d'utiliser du papier toilette qui viendrait de papier recyclé. Parce que d'accord, ça représente... En fait, la WWF, c'est la seule organisation que j'ai vu qui s'y intéressait, a mis que ça utilisait beaucoup trop de watts de cellulose qui venait de forêts non protégées, non renouvelables. D'accord. Et donc... que c'était un gaspillage énergétique. Et on a du papier, en fait, on a du papier toilette recyclable qui est recyclé, qui existe.
Ouais, parce que recyclable... Bon.
Recyclable moyen, mais vous pouvez peut-être utiliser la deuxième face. Mais, non. Mais on a par contre ça, le fait que ça soit, il est un peu plus gris. Et il y a aussi, pour éviter le carton au milieu, il y a aussi des entreprises sans carton au milieu. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire utilement. Sinon, pour ceux qui sont encore plus costauds dans l'écologie, t'en as qui ont inventé des lagettes lavables qui passent en machine à 60 degrés.
Ouais, comme pour bébé, quoi.
Voilà, okay. Et que tu réutilises.
Et bah pourquoi pas.
Mais après, il faut se chauffer, quoi. Il faut 136 de tête, hein. Il faut 136 litres d'eau pour un rouleau de papier toilette. Quand tu peux te laver avec juste de l'eau comme ça, c'est sûr que le gaspillage énergétique est énorme sur le papier toilette.
Ah, franchement, toilette. Écoute, tu me hype là, sur l'histoire de lingette. Écoute, why not?
Si tu essayes, on prendra des photos, on mettra ça sur le Twitter de Lagrange.
Eh ben, écoute, why not?
Voilà, c'était ma petite histoire du papier toilette.
Je suis trop content d'avoir donné ce sujet.
C'est
tellement plus gay que...
Que les Kurdes, tu m'étonnes. Je crois que je tiens encore à m'excuser pour l'histoire des Kurdes. En plus, je suis rentré dans les détails, c'était vraiment pas marrant.
Bah, je pleure tous les jours. Hein,
Et tous les peuples apatrides, c'est triste. Alors que le papier toilette, bah, au pire, le seul moment triste, c'est quand il craque. Mm. Et puis, t'en as un peu sur les doigts, mais ça, pareil, tu peux le laver, quoi.
Du coup, tu l'as utilisé pour rien. Autant ne pas en prendre. Non, en tout cas, je suis vraiment content de ce sujet. Écoute, j'essaierai de trouver un truc du même acabit pour la prochaine fois. Donc là, je te propose qu'on passe à mon exposé de CO2.
S'il te plaît.
Il y a une super chanson de Jingle qui s'appelle du PQ pour mon trou-trou. Du PQ pour mon trou-trou.
Mon exposé de cible. La rubrique où je fais mon exposé de cible.
Et pour mon exposé de CE2 aujourd'hui, Eric m'a demandé de parler du docteur Mirko Beljanski.
Alors, oui.
Mirko Beljanski, il est né en 1923 en Yougoslavie, oui ça existait à l'époque.
C'est tôt.
D'un père mécanicien et d'une mère couturière. Et grâce à son talent et peut-être un peu grâce à l'effet Pygmalion, il a pu bénéficier d'une bourse qui lui a permis d'étudier la biologie à l'université de la Sorbonne à Paris. Il a obtenu un diplôme d'état de docteur S sciences, ce qui fait bien de lui un docteur mais pas un médecin, c'est intéressant pour la suite. Il a bossé au CNRS en tant que biologiste et il a bossé en tant que chercheur à l'Institut Pasteur. Il a beaucoup
donc
étudié.
Le type a quand même des diplômes.
Il a 133 publis, ce qui est bien. Il a beaucoup étudié l'ADN et l'ARN et voilà, il a publié dans de nombreuses études. Il a publié de nombreuses études dans plein de revues différentes. Donc. Certaines avec un moins bon impact factor que d'autres, mais franchement, voilà.
Le gars pèse, quoi.
Ouais. Il est surtout connu pour avoir développé et vendu des extraits naturels pour guérir du cancer et du sida, notamment. Il aurait même traité François Mitterrand de son cancer de la prostate. Enfin, ça, c'est surtout dit sur son site, puisque finalement, il n'y a aucune autre source qui vient recouper l'info nulle part.
Okay.
Et du coup, personne ne le saura jamais. Mais bon, voilà. Vous pouvez faire un tour sur son site si vous voulez avoir des étoiles dans les yeux. Il a trouvé des remèdes naturels à toute forme de cancer, hein, il le dit, au sida, aux maladies neurodégénératives. Hein, voilà. C'était donc, je cite quasiment mot pour mot, un chercheur qui voulait vouer sa vie à la science. Mais finalement, il y a un ignoble complot de Big Pharma qui l'a empêché de distribuer son produit et de sauver des millions de vies. Alors, pas de bol, il est lui-même décédé d'un cancer. Mais bon, uniquement parce qu'il n'avait pas accès à ses propres produits, hein, ça c'est précisé sur son site. Et puis François Mitterrand, il est décédé de son cancer, mais c'est parce qu'il a eu le produit un peu trop tard, parce que sinon c'est sûr ça aurait marché. Donc en gros, peut-être que les plus vieux auditeurs connaîtront l'affaire Beljanski. En fait, il a été accusé d'exercice illégal, je ne savais même pas que ça existait, exercice illégal de la pharmacie. Et exercice illégal de la médecine, il a été condamné, donc c'est un délinquant.
En ce moment, t'as une pharmacie en Marseille qui est spécialisée dans les plantes et dans la botanique et qui vend bien sûr les plantes en tant que médicament.
Enfin, pourquoi pas, hein. Il y a des vrais trucs.
Sauf qu'ils se sont fait totalement fermer. Il y a eu des arrêtés contre eux, des procès parce qu'ils considèrent que la vente de plantes, ce n'est pas de la vente de médicaments et que on ne peut pas vendre des plantes en promettant des vertus médicinales à ces plantes-là.
Ouais, c'est abusé parce que la phytothérapie, il y a des très bons trucs et il y a des trucs qui ne marchent pas du tout. Mais...
Voilà. Okay.
Et ben, donc je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, si pour les auditeurs les plus vieux, donc ça a fait quand même pas mal de bruit à l'époque, bah, notamment parce qu'il est censé avoir traité en tout cas François Mitterrand, qui avait quand même eu radio-chimio, machin.
Oui, il a tout eu, oui.
Ouais. Et du coup, il y avait, le jour de son procès, je crois, des centaines de patients soignés par ça qui disaient « J'ai été guéri par ça, votre complot va tuer des gens. »
Ouais.
Voilà. Donc, et du coup, j'ai pu voir pas mal de forums de pros aidantis, forcément. Il faut savoir qu'il est sur... donc, c'est sa fille qui a repris le flambeau, qui est avocate. Qui est
à New York, je crois.
Voilà, aux États-Unis, ça marche bien parce qu'il n'y a pas les mêmes régulations et... Voilà. Le site est accessible en France, hein. J'imagine que tu peux acheter des trucs en France. Alors, du coup, je continue du coup. Les trucs qui reviennent beaucoup de la part des gens pro-Beljanski sur les forums, c'est que bah, c'est vraiment un génie incompris de la science, comme Galilée, qu'en gros il y a un complot, qu'un mec super altruiste qui a découvert vraiment des remèdes miracles et que voilà, c'est un complot de Big Pharma pour le faire taire. Le truc, c'est que. Clairement, le mec a vraiment fait des vrais publis, c'est un vrai chercheur.
Ouais.
À mon sens, il a dérapé, quoi, parce que... on va revenir sur plusieurs notions. Déjà, le premier truc, c'est le fait que vraiment tout le monde dit qu'il soit altruiste, tout ça, je trouve pas tant que ça, parce que si vraiment son truc marche, il a quand même mis des brevets et empêché tout le monde de faire comme lui, ce qui est pas cool, parce que si vraiment ça marchait, il faudrait le distribuer au contraire à tout le monde. Un extrait de plante qui guérit du cancer et du sida et des maladies neurodégénératives, faut le donner si tu l'as, tu vois. Voilà.
Après, si tu as travaillé à le développer, tu peux comprendre que tu souhaites le vendre aussi.
Mais dans ce cas, tu n'es pas altruiste.
Oui. Mais ouais. Ça t'a demandé des fonds. Pour avoir personnellement dans ma famille quelqu'un qui développe une molécule aujourd'hui qui soigne la dépression, la molécule va être vendue à un prix incroyablement élevé pour nous, c'est... on ne se rend pas compte. Mais derrière, il y a aussi des investisseurs à rembourser, il y a des équipes à
payer. Alors ça dépend si tu as été un chercheur au CNRS avec de l'argent public, tu vois.
Mais là, c'est, vu que c'est de la recherche... la recherche
c'est ça le truc, alors j'allais y venir. Il n'y a pas de recherche en fait. Il a fait quelques petits trucs in vitro, mais pas de trucs in vivo. Donc je voulais en parler plus tard. Bah écoute, j'en parle maintenant.
Mais il faut des sous pour ça.
C'est surtout que ça ne marche pas. Du coup, il n'a pas pu faire d'études in vivo et montrer que ça marchait. Et en fait, le fait d'avoir des centaines de gens qui viennent témoigner que son remède marche, eh ben, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est une notion qui est vraiment fondamentale à comprendre, c'est qu'un témoignage, c'est jamais, jamais une preuve. Y a plein de raisons pour ça, mais des gens qui vont être guéris par n'importe quel traitement, ça va exister en tout. Tu vois, des gens qui disent qu'ils sont des magnétiseurs, des gens qui guérissent avec des pierres, avec, en se mettant des petits cailloux dans les fesses, voilà, tout le monde va guérir une partie. Enfin,
peut-être qu'ils s'essuient juste, hein, si
c'est voilà, exactement. Notamment par l'effet placebo, enfin par les effets contextuels, il y a une partie des gens qui vont guérir. Et donc ça s'appelle le biais du survivant, c'est-à-dire ceux qui sont morts, ils peuvent plus témoigner, ceux qui sont restés en vie, ils peuvent témoigner, oui, ça a marché. Et autre chose d'intéressant, c'est la différence in vivo, in vitro. Moi, j'ai longtemps pas compris, en fait. Pour moi, si ça marchait dans un laboratoire sur des cellules, ça devait marcher dans la vraie vie, non. La réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Il y a peut-être plein d'effets qui ne sont pas pris en compte dans le vivant, et du coup, une étude in vitro ne peut pas du tout remplacer une étude in vivo. Voilà. Dernier point. Oui, non, c'était juste du bashing gratos. C'est pas du tout un argument, mais apparemment, pour un mec altruiste, donc il était actionnaire majoritaire d'une société qui gérait tout ça, Rosera LTD, qui avait son siège social dans un paradis fiscal sur l'île de Jersey. Voilà. C'est juste une crotte de nez parce que ça ne veut pas du tout dire que ça marche ou non. C'est juste que voilà, ça paraît peu altruiste et tout.
Voilà, ça fait un peu chef de secte qui prend la thunasse et qui la met de côté, quoi.
Et
surtout que sa fille aujourd'hui fait ça à New York, quoi.
Ouais, et le site est hyper actif. Enfin, vraiment, il y a des billets. Si vous voulez tout savoir. Il y a des guillemets, vous ne pouvez pas les voir, mais il y a des guillemets. Hein. Sur le coronavirus, du point de vue d'une avocate qui est à New York, regardez-le.
Et c'est d'ailleurs dingue que sa fille gère l'entreprise en étant avocate et non pas scientifique.
Sa veuve aussi. Hein.
Sa veuve aussi.
La veuve Beljanski a, elle aussi, été... Alors elle, je ne crois pas exercice illégal de la médecine, mais que exercice illégal de la
pharmacie.
De la pharmacie, oui. Voilà.
Donc oui, et puis moi j'avais vu à l'époque la façon dont il avait été traité, et le truc c'est que je t'ai demandé de m'en parler parce que je suis tombé dans un repas où les gens m'ont dit tu devrais t'intéresser à Beljanski parce que on nous cache des trucs. Et donc j'ai commencé à regarder, j'ai fait c'est chelou quand même. Et son Wikipédia est assez neutre là-dessus. Il y a pas, parce que on a tout quand même la première partie de sa vie où effectivement c'est un docteur en sciences.
C'est un vrai docteur en sciences, tout à fait.
Et le gars dépublie, le gars cherche un CNRS et à un moment, il dérive.
Ouais. Mais de la même manière, il y a, je ne sais pas si tu connais, Luc Montagnier, un ancien prix Nobel, qui a découvert le VIH et après qui est parti en couille totale. Quoi.
Et je sais.
Il a voulu guérir le pape de Parkinson ou Alzheimer, je ne sais plus, avec de la papaye fermentée. Alors à la limite, pourquoi pas, mais ça ne marchait pas. Après, il avait prétendu avoir guéri l'autisme. Voilà, et là, il faisait tous les plateaux télé en disant que la Covid était sortie d'un laboratoire humain avec des... Enfin voilà, il se base plus trop sur de la science.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux... Enfin, Le Monde et Libé qui ont sorti des papiers comme quoi la Covid serait sortie d'un laboratoire humain.
Alors, ça se trouve, l'histoire me donnera tort, mais en tout cas, les preuves qu'il avait à l'époque, elles n'étaient pas valables.
Elles n'étaient pas valables.
Ouais. Ça balance sévère. Eh ben, ça fait plaisir de revenir à la grange. C'est pas possible, comme on dit. Ça fait plaisir de revenir à la grange.
Papa, petit, de la
jingle,
bière.
Petit jingle de fin.
Petit jingle de fin. Merci à tous de nous écouter. Merci à toi, surtout, mon auditeur.
C'est un gros dégueulasse. Il est vraiment fort. Il vit chez sa mémé. Il s'habille chez ma mère.
Gaëtan, faut qu'on t'invite.
Il est vraiment
à la prochaine.
J'ai déjà dit ça la dernière fois. Dans sa super Volvo, il est vraiment l'avant, il n'écoute qu'à l'amour. Jean.
On l'invite avant 2022.
Ouais.
De ce état. Rien.
bien d'écouter des trucs facho, mais je trouvais moins des trucs vraiment à gauche.
J'ai rencontré Sophie à la foire au fromage. Elle est vraiment jolie. Je suis sur un nuage. J'ai vu son numéro par son meilleur copain. C'est un grand rigolo. Je crois qu'il m'aime bien. Pareil que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je mets mon ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes folles de moi. Je suis irrésistible. Elles sont toutes en émoi. Je suis vraiment terrible. Je
après 14h. Ah bah écoute, il n'est toujours pas trop tard, donc rendez-vous 19h au drugstore. Ciao.
Je suis vraiment passé pour une fois que je sors à une super soirée au café le drugstore. C'est vraiment mal barré. Que vont dire les copains? Ce type a tout gâché. Y'a plus de rime en un. J'ai envie de le tuer à grands coups de chevrotine ou bien de l'éventrer comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même bizarre. Pour une fois qu'on m'invite, ou c'est un coup Bernard et de ses acolytes.
Ça me fait du bien d'aller dans
le cauchemar du jus.
Il est bientôt 2h, mais elle ne m'aimera plus. Je vais lui faire mal au cœur, lui dire que je l'aime plus. Ses copains sont partis, le café va fermer. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher.
Allô, Sophie? Écoute, c'est Gaëtan ici. Écoute, il est 2h du matin. Je suis fatigué, j'avais faim. J'ai mangé des pralines, j'avais toujours faim, je viens de finir les fleurs. Écoute, ça fait dur entre nous, écoute, c'est fini, je sais que ça va être dur pour toi, mais courage, courage, ne pleure pas. Je resterai un ami pour toi si tu veux, c'est fini entre nous. Ciao.
Ça pourrait être un bon pote, mais qui tu dis, oh, ferme ta gueule.
Ouais, voilà.
La bonne coutasse.